bonjour à vous et bienvenue dans ce 68e épisode de Up to Eleven. Ensemble, comme à notre habitude, nous allons découvrir ou redécouvrir un groupe, un artiste par le biais d'un seul et unique album. De cet album, j'en extrairai 3 musiques, comme toujours, et je rajoute toujours une 4ème musique supplémentaire qui peut être extrait d'un live, d'un autre album ou que sais-je encore. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un groupe hyper connu, hyper culte même, mais par le biais d'un album qu'il est un tout petit peu moins, du moins connu du grand public. Nous allons revenir sur cela tout de suite après. As I reach for a peach, slide a ride down behind a silver in Saint-Tropez. Breaking a stick with a brick on the sand, riding a wave in the wake of an old sedan. Sleeping alone in the drone of the darkness, scratched by the sand that fell from my love. Deep in my dreams and I still hear her calling. If you're alone, I'll come home, home. Backward and homebound, the pigeon, the dove. Silver spoon, I'm drinking champagne like a good tycoon. Sooner than wait for a break in the weather, I'll gather my far-flung thoughts together. Speeding away on the wind to a new day. If you're alone, I'll come home, home, home. Nous venons d'écouter Saint-Tropez, cet extrait de l'album Medal de Pink Floyd en 1971. Alors mes chers amis, je l'imagine par avance et bien que trop bien qu'il existe moult et moult tétrachiers de podcasts, de livres, de documentaires consacrés à nos chers amis de Pink Floyd et qui parleront bien évidemment bien mieux que moi. Par rapport à ce groupe, parce que peut-être qu'ils sont allés les interviewer, peut-être qu'ils ont eu des anecdotes de gens qui étaient prêts, alors que moi, à part les anecdotes de Wikipédia, j'en sais pas plus. Je pense qu'ils font aussi beaucoup plus loin que moi, donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur ce groupe, c'est probablement par là qu'il faudra en passer. Moi, dans ce podcast, j'ai surtout la volonté de faire découvrir les choses. Alors c'est vrai que faire découvrir Pink Floyd, c'est pas forcément le choix le plus pertinent, parce que bon, je me demande presque qui ne les connaîtrait pas à minima. Hein. Je pense qu'il y en a quand même, mais enfin bref, voilà. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de partir sous l'angle de cet album, Meddle, qui est l'album, mon album préféré, du moins, de Pink Floyd, pour une raison d'ailleurs que je ne sais toujours pas pourquoi, d'ailleurs, peut-être un jour aurai-je l'illumination, mais en tout cas, c'est mon préféré. Et cela m'a semblé plus légitime de traiter sous cet angle-là, pour vous présenter déjà ce groupe par le biais d'un album qui n'est pas forcément l'un des plus connus, parce que dedans, à part la chanson Echoes, pour ceux qui la connaissent, il n'y a pas forcément de chansons qui... Si, alors le reste est un tout petit peu connu, mais c'est pas forcément les morceaux qu'on entend le plus de Pink Floyd. Et c'est plutôt par ce biais-là que j'ai souhaité vous présenter le groupe. Donc je vous ferai un historique du groupe par le biais de cet album. Pour sa chronologie, Meddle, en fait, se cale entre deux voire trois albums. Ça dépend comment on peut voir les choses. Il se cale juste après Atom Earth Mother en 1970, dont nous aurons un morceau juste à la fin de cet épisode. Et il se cale avant deux autres albums. Alors pourquoi deux? Tu pourrais me dire que s'il faut que je le cale quelque part, ce serait toujours entre un et un autre. Et bien en fait, j'ai décidé d'en prendre deux, parce que nous avons Obscurated by Clouds, qui est sorti en 1972, qui est un album en tant que tel de Pink Floyd, mais c'est aussi une BO de film, un film de Barbette Schroeder. Et donc c'est pas forcément l'un des travaux les plus connus du groupe Pink Floyd. Ouais, ils ont fait, d'ailleurs pour ce même réalisateur, ils ont fait déjà une collaboration précédente avec le film Mort, et donc la BO du film Mort, simplement. Et juste après, en 1973, nous avons un autre album qui est, je pense, l'un des albums les plus vendus au monde. À peu près, hein, je pense, sans exagérer, et c'est bien évidemment The Dark Side of the Moon. Donc c'est pour ça qu'un petit peu je vous ai choisi ces deux albums-là, parce que il faut savoir que voilà, Pink Floyd a fait de la BO de film, même avec The Wall, pourrait-on dire, quelque part, parce que The Wall a aussi été décliné un petit peu plus tard en film. Bon, ça, après, ça reste un petit peu à relativiser. Et après, nous avons donc, voilà, Mort et donc Obscurated by Clouds, qui sont un petit peu particuliers dans la discographie de Pink Floyd. Meddle a aussi une autre particularité, c'était un petit peu un album de transition en tant que tel, déjà. C'est parce qu'en fait, déjà, il solde un petit peu la période Syd Barrett, donc à savoir le premier chanteur et le vrai premier leader de Pink Floyd, quand ils avaient un son qui était beaucoup plus psychédélique que rock progressif, en tout cas. Et c'est vrai que ça se ressent sur cet album, on va chercher des choses qui sont beaucoup plus psychédéliques, tout en allant chercher ce rock progressif qui définira un petit peu mieux Pink Floyd à partir de The Dark Side of the Moon. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est un album de transition, parce que voilà, donc il solde... Syd Barrett, qui est parti pour des raisons qui sont un petit peu particulières. Souvent, vous le savez, dans les groupes de rock d'une certaine époque, les gens aimaient beaucoup se droguer, et souvent les gens ils ont mouru, tout simplement. Ou alors ils faisaient des cures de désintoxication, et ça finissait pas forcément bien, ou ça ne finissait forcément un petit peu jamais. Et ben lui, il est devenu tout simplement un peu foufou. Voilà, tout simplement, il souffrait de problèmes mentaux. Il est décédé d'ailleurs qu'en 2006. Le groupe a décidé de se séparer de lui parce qu'il ne pouvait plus. Ce n'était plus possible. Ils ne le reverront vivant. Hein, après, ils seront malheureusement tous à peu près se réunir le jour de son enterrement. Mais ils ne le reverront que très brièvement lors de l'enregistrement de l'album Wish You Were Here, où il fera une arrivée un petit peu rocambolesque dans le studio d'enregistrement, où il sera là, je crois qu'il ramène 2-3 bricoles, ou je sais pas quoi, il leur raconte 2-3 bricoles, et c'est d'autant plus un petit peu ironique, mais c'est encore une fois une facétie du sort, parce que l'album Wish You Were Here parle un tout petit peu de cette absence, de cette absence de Syd Barrett au niveau du groupe. Et c'est aussi encore un album où le groupe travaille de façon assez collégiale. Personne n'a encore repris le leitmotiv, du moins le leadership, hein, pour utiliser un mot anglais qui va bien, de Syd Barrett. Ce que fera plus tard Roger Waters, donc le bassiste, qui reprendra totalement les rênes du groupe à partir de un tout petit peu avant l'album Animals, et surtout pour l'album The Walls, et surtout The Final Cut, où il a tellement repris, il a tellement repris les rênes du groupe que même pour certains, The Final Cut, qui est un album Pink Floyd, certains le qualifient d'un album de Roger Waters en tant que tel, ce qu'on pourrait dire d'ailleurs de l'album The Division Bell, mais pour une autre raison, qui pourrait être un album de David Gilmour, donc le guitariste. Donc voilà, c'est un tout petit peu particulier, mais ouais, c'était aussi pour ça que j'ai choisi cet album, et pour d'autres raisons, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est un album un petit peu... on sent l'évolution du groupe voilà, sur cet album, c'est ça qui est assez, ça qui est assez perturbant. Donc pour nos quatre musiciens que nous avons cette fois-ci, nous avons donc David Gilmour qui est à la guitare électrique, guitare acoustique, qui fait de la basse en unisson avec Roger Waters sur le tout premier morceau de l'album. Il fait aussi de l'harmonica et du chant. Après derrière nous avons Nick Mason qui est à la batterie et instrument de percussion et un petit peu voix aussi. Nous avons donc Roger Waters qui est lui à la basse et un tout petit peu aussi guitare acoustique et chant. Et nous avons pour terminer l'immense Richard Wright qui est à l'orgue Hammond, à l'orgue Farsifa, et un tout petit peu de chant lui aussi. Et si je commence déjà à vous parler eh bien, des interprètes et forcément des musiciens que nous retrouvons sur cet album, c'est bien qu'il y ait une raison, vous allez la comprendre tout de suite, et ça explique aussi une autre particularité de cet album. Nous avons comme participant Shamus, qui est un chien, tout simplement, avec des aboiements, et nous avons aussi des supporters du Liverpool Football Club pour la troisième chanson. Là, c'est là que dans votre tête, vous devez vous dire mais c'est quoi ce bordel ? Et vous allez le comprendre eh ben, assez rapidement parce que je vais vous dire la stricte vérité. Pink Floyd ne savait strictement pas où aller avec cet album. C'est-à-dire que quand ils sont rentrés en studio, en fait, c'était même pas que les mecs ils se branlaient la nouille ou non, c'est que ils avaient pas forcément d'idée directrice pour savoir vers où orienter cet album. Et c'est alors qu'ils se sont dit. Et je pense que c'est pour cela que cet album, je l'apprécie très grandement. Ils se sont dit, bah tiens, pourquoi on ne ferait pas de l'expérimentation ? Et on en est arrivé à un album qui est, pour moi, c'est un point de pinacle de la musique, en fait, tout simplement. J'y reviendrai plus tard dans cette émission. Mais c'est tellement un foutraque de tout, c'est assez impressionnant. Alors, cet album est composé de 6 pistes. Alors là, maintenant, je vais vous parler, bien évidemment, de la version vinyle, parce que c'est ce qui est sorti à l'époque, en 1971. Il n'y a que deux faces, et là vous allez voir que les faces c'est un petit peu vu différemment, hein, parce qu'en fait nous avons 5 pistes sur la première face et 6 sur la dernière. Alors ce qui veut dire que c'est soit un album très court et puis rester juste de la place pour en mettre une derrière, soit il y a embrouille, et en fait il y a embrouille. Donc nous avons première piste, One of These Days, c'est un morceau instrumental, tout le monde est auteur sur ce morceau là. Nous avons après A Pillow of Winds, là c'est Gilmour et Waters. Comme auteur et au chant, nous avons Gilmour. Nous avons après Fearless, qui inclut une chanson à la fin. C'est là où nous entendons les supporters de Liverpool. Et c'est avec You Never Walk Alone, le morceau très connu des supporters de Liverpool, si vous êtes amateur de foot, bien évidemment. Donc, comme auteur, cette fois-ci, nous avons Gilmour et Waters, avec au chant Gilmour. Après, nous avons Saint-Tropez, que nous venons d'écouter. Ça, c'est une création unique de Roger Waters, et c'est Roger Waters au chant. Nous avons après Shamus, donc nous avons Shamus qui aboie, hein, parce que c'est la chanson où le chien aboie. C'est d'ailleurs, ce morceau ne passera pas dans cette émission, je vous le dis déjà par avance, mais c'est un morceau tellement pur blues, que c'est ça même confondant, c'est pour ça que... Enfin bref, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc là, c'est Tout le monde est auteur, et c'est Gilmour qui chante, et nous avons la toute dernière chanson de l'album, qui dure la bagatelle, elle est qu'en face B, parce qu'en fait elle prend quasiment toute la face B. Et avant de passer à le dit morceau, il faut aussi que je fasse une espèce de débunker, parce que vous le savez, je suis le premier sur l'information, en fait pas du tout. Et je me suis toujours posé la question, à quoi ressemblait la jaquette de Medal. Alors c'est vrai que de la dire à l'audio, ça fait pas très joli, parce que c'est pas quelque chose de très expressif, en fait, si vous voulez. En fait c'est une oreille qui est sous l'eau, et on a jeté des petits cailloux à côté pour faire des petites ondulations. Donc en fait, ce que vous voyez sur cette pochette, en fait, c'est une oreille. Enfin, du moins, une oreille, mais de très près. Hein. Donc ouais, moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'était. Je crois que pendant des années, je crois que c'était un pif. Je crois que c'était le nez de quelqu'un, mais avec un effet chelou. Non, en fait, c'est une oreille. Et ça se voit mieux, en fait, quand on ouvre le vinyle, en fait. Parce que le vinyle, à l'époque, ça pouvait être soit fixe, soit en deux volets. Et quand on ouvre un deux volets, là, on voyait mieux que c'était une oreille. Donc voilà, en fait, c'est une oreille. Donc maintenant, je vais vous demander de tendre l'oreille. Oh, jeu de mots, c'est magnifique. Pour écouter un second morceau de Medal. On se retrouve donc tout de suite après.
Thank you.
C'était donc Echoes, extrait de l'album Metal de Pink Floyd en 1971. Alors je vais revenir assez rapidement sur le choix de cet album en particulier. C'est l'un de, c'est ma, peut-être même ma première rencontre avec un album, pas avec les Pink Floyd classiques bien évidemment, Another Breaking the Wall, tout ça. Je pense que vous les avez entendus quand vous étiez un peu plus gamin. Et c'est vrai que ça c'est un album que j'ai rencontré un peu plus sur le tard quand j'étais un petit peu plus qu'un adolescent. Je ne vais pas vous faire croire que j'avais de la barbe au menton, mais en fait, j'avais toujours eu, en fait. Non, c'est, je ne vais pas vous faire croire que j'étais un télé. Ah non, ça n'est toujours pas arrivé. Bon, bref, c'est l'une de mes premières rencontres, à un moment où quand même je me penchais un tout petit peu plus sur la musique. Et ça a été pour moi une révélation avec ce morceau Echoes, qui pour moi, un morceau, c'est vraiment c'est un morceau iconique pour moi. Je crois que probablement, on ne peut pas faire mieux. C'est vrai quand on apprend en plus que ça a été fait, alors, je pense que de la façon que ça a été fait, ça se sent. Ça a été fait de façon très collégiale, c'est un morceau qu'on peut décomposer à l'infini. y a tellement de choses à raconter, il raconte tellement de choses, ça a pas l'air comme ça, parce que c'est pas que c'est sirupeux, mais en fait, cet effet d'écho, en fait, il est vraiment exploité et ingénieusement exploité dans tout le morceau. On a déjà ce départ en sonar, et puis après, on a beaucoup d'effets qui sont en rappel les uns des autres. Il y a même des effets, d'autres effets musicaux qui sont en arrière-plan pour un petit peu asseoir la musique, et ça va vraiment hyper loin. Et on a d'autres effets qui sont un petit peu plus particuliers. Par exemple, à un moment, on a l'impression que ça fait une espèce de bruit de mouette, une espèce d'effet lancinant. Et bien en fait, c'est une pédale wah-wah. Donc la pédale wah-wah, c'est cet effet c'est l'effet qui donne le même nom à la guitare. Hein. C'est un effet un peu chaleureux. Et quand on appuie sur la pédale, ça fait. Oh, c'est un petit peu ce qu'on a dans Stevie Ray Vaughan utilisé beaucoup, où ça fait par exemple. Des effets comme ça. Donc là, elle est branchée à l'envers. Alors c'est pareil, ça a été trouvé bien avant par David Gilmour, qui une fois avait mis sa pédale à l'envers, tout simplement. Et donc cet effet a été gardé, ou ça, etc. Et d'ailleurs, cette expérimentation est partie de vouloir exploiter un effet qu'avait trouvé Richard Wright aussi en faisant une fois un petit peu l'idiot. Il avait trouvé un effet un peu sonore. D'ailleurs, ils ont mis je sais pas combien de temps pour retrouver cet effet. Après, a posteriori, parce que vous imaginez, en 1971, ça devait tripoter dans tous les sens, donc je comprends bien que pour retrouver un effet en analogique, c'est bien plus compliqué. Et pour enregistrer le morceau tel que nous venons de l'écouter, il leur a fallu à peu près 6 mois de boulot. Bon, je pense que c'est pas 6 mois en continu, mais ça vous laisse imaginer la complexité du morceau. Pour moi, c'est vraiment un morceau iconique. Et donc, après cela, j'ai découvert l'album et j'avoue que je suis resté un tout petit peu surpris par l'orientation de cet album. C'est quand même assez cohérent, bizarrement, en termes d'effet, en termes de, je trouve, de son produit, c'est très cohérent. Mais c'est vrai qu'on part un petit peu, on part un tout petit peu dans tous les sens. One of These Days, qui est un morceau très instrumental, qui est assez punchy finalement. Vous allez l'écouter juste après. Un morceau assez punchy, puis après on passe à une balade un peu amoureuse. C'est vrai que ça, Pink Floyd, y a pas trop dans leur répertoire. Déjà, c'est un truc qui déjà ça désarçonne un tout petit peu. Peut-être aussi, c'est un petit rappel. Alors, ça fait très Roger Waters quand même dans l'esprit, mais c'est peut-être aussi un petit rappel, ce psychédélisme un petit peu de la période Syd Barrett. Après, nous avons donc, c'est Fearless, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, Fearless, donc avec cette fin où ça finit avec ce chant de You Never Walk Alone des supporters de Liverpool. Pourquoi pas? Là, on passe à une espèce de jazz un peu voilà quoi, avec Saint-Tropez qui nous rappelle bien évidemment le sud de la France, c'est parce que c'est Saint-Tropez, hein, vous l'avez bien compris. La première fois que j'ai entendu ce morceau, je me suis dit, mais ouais, qu'est-ce que ça vient me foutre là? Et alors, déjà, je tire déjà le reste, je vais poser déjà les questions. Et puis après, il y a ce morceau, Chien Nu, là. Une espèce de 2 minutes de jazz, d'une sorte de pseudo-jazz avec un chien qui aboie. C'est tellement surprenant. Et puis on finit avec ce morceau, donc Icos, donc je pourrais vous parler pendant des heures. Il y a tellement de. Ce travail sur la texture musicale est juste incroyable. C'est vraiment une sorte de pipeau, c'est vraiment un pinacle de la musique. C'est vraiment un morceau formidable, quoi. Alors, déjà quand on l'écoute, faut l'écouter avec un très bon casque, avec. Là, c'est là qu'on sent que ça donne envie d'acheter un très bon matos pour écouter ça en très bonne qualité, et ça passe mieux. Et c'est même encore un morceau qui passe mieux quand t'as un gros, gros, gros verre dans le nez, donc c'est-à-dire que t'as plusieurs verres dans le nez, et quand peut-être t'as pris des trucs un peu, qu'il faut peut-être pas trop les prendre. Et là, c'est beau. C'est même encore meilleur, tu retrouves d'autres trucs dans la musique, donc c'est un morceau qu'on peut écouter à foison, dans divers états divers et variés, et on y trouve toujours quelque chose. Moi, je suis toujours surpris par ce morceau. Alors, c'est vrai qu'il faut aimer les morceaux qui sont un peu longs, faut aimer ce rock. Là, c'est vrai que c'est la fois. On est vraiment plus à ce chemin entre du progressif et du psychédélique, parce qu'on a vraiment un travail sur. Bon, ouais, c'est impressionnant, quoi. Et voilà, c'est pour ça que je trouve que voilà, cet album, pour moi, il résume assez bien Pink Floyd dans à la fois tous ses travers, parce qu'on a un morceau de. Finalement, même ce morceau de Roger Waters. Saint-Tropez, qu'il a lui-même fait tout seul. Il y a un petit peu cette même mise déjà, voilà, de Waters sur certaines choses, et c'est vrai que je trouve que ça résume assez bien le groupe, au final. C'est pour ça que probablement je l'ai choisi pour vous en parler, parce que voilà, il y a toujours ces albums iconiques. On vous dira The Dark Side of the Moon, on vous dira Wish You Were Here, qui est excellent aussi, c'est très bons albums, hein, The Wall aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai que des fois, les autres albums, comme. Uma Guma, ou vous avez par exemple Animals, qui sont des très bons albums eux aussi, Ils sont un petit peu passés enfin, ils sont un petit peu passés sous les radars. Je pense que les fans de Pink Floyd vous diront qu'ils sont exceptionnels. Mais c'est vrai que pour le reste de la population, c'est pas forcément des albums qui parlent le plus. Hein. Surtout qu'en plus ils ont repris les bruits d'animaux. Non, Animals, donc c'est aussi un tout petit peu particulier. Mais ouais, moi je reprends ces excellents albums. Après, il y a toujours le reste, ça peut toujours être débattu. Mais c'est vrai que je souhaitais aussi vous présenter Pink Floyd. Par le biais d'un album qui était un tout petit peu moins connu, mais qui pour moi était finalement assez révélateur de cette musicalité qu'il voulait imprimer. Voilà, tout simplement. Bon, je pense que je vais pas débattre plus, y a pas de raison de vouloir débattre bien plus que davantage. Nous allons passer à un autre morceau et nous nous quitterons après, bien évidemment, la palabre de fin, tout ça, etc. On se retrouve donc tout de suite après. Nous venons d'écouter One of These Days, cet extrait de l'album Metal de Pink Floyd en 1971. Donc j'espère que vous aurez apprécié cet épisode sur Pink Floyd et plus généralement ce magnifique épisode de Up to Eleven. C'est toujours présenté par Gandalf80 qui vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute. Le Up to Eleven, ou j'aurais pu dire Up to Eleven, je sais pas. Mais en tout cas, le Up to Eleven traditionnel, ça c'est un lundi sur deux, un lundi tous les 15 jours. Un groupe, un artiste par le biais d'un seul et unique album, et une fois par mois, vous retrouverez le 11 du mois Up to 11 Mood. Ça, c'est 4 musiques choisies selon mon humeur et mes humeurs. Alors, pour finir, vous comprenez bien que j'ai pas pu passer à côté d'un autre album dont nous avons parlé dans cet épisode, donc At Tom Earth Mother, et nous allons écouter le morceau At Tom Earth Mother, qui dure la bagatelle de 26 minutes, hein, tant qu'à faire, ça sert. Alors il est découpé en plusieurs petites parties, ce qui lui donne un petit côté progressif. C'est vrai que moi j'aime bien ce petit côté aussi de faire comme si une seule musique était là, de la narrativité de la musique tout simplement, pour venir nous expliquer, nous mettre en scène plutôt différentes petites scénettes, et pour nous en faire plutôt déduire une histoire, parce que c'est vrai qu'en musique, des fois, c'est un peu compliqué de faire vouloir passer un message, surtout quand c'est instrumental, tout ça. C'est vrai qu'on a un petit peu cette difficulté à faire passer la musique, mais moi, j'aime bien quand même cette volonté de vouloir un petit peu nous créer des univers qui sont censés nous évoquer des choses. Et c'est en cela aussi que je vous mets des morceaux un petit peu comme ça, dans cette émission, j'aime bien ces morceaux assez longs, qui justement sont là un petit peu pour nous imprégner. Il y a cette musique un petit peu qui est là, déjà, de toute façon, on a cette musique qui est là un petit peu pour nous ambiancer. Je vais pas forcément en dire plus par rapport à ce que j'en pense, je pense que des fois ça va, mais des fois, voilà. On a un petit peu cette musique qui est là aussi, un peu pour un petit peu sirupeuse pour nous envelopper, mais c'est chiant. J'ai fait une critique alors que je devais rien dire à celle d'avant. Bref. Et après, on a voilà, des artistes aussi, ou des groupes, hein, qui essaient d'aller un tout petit peu plus loin, qui essaient un petit peu voilà, de nous surprendre des fois. Alors des fois, ils veulent tout à fait bien nous surprendre avec une musique de 4 minutes, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que j'aime bien, des fois, quand on prend le temps, justement, d'instiguer quelque chose en musique. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les albums concept, quand on veut vraiment travailler la matière musicale pour, et la narrativité musicale pour nous amener d'un endroit à un autre, de nous balader, et d'essayer de nous faire vivre des expériences. Eh bien, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, je vous laisse donc avec Atom Earth Mother, et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Up to 11. Ciao, ciao!